À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
C'est bon, ça !
Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir dans les studios de Fréquence Mistral à Manosque l'association Plume d'Espoir, alors représentée par des bénévoles, un président et un spécialiste pédagogique. Je vais commencer avec vous, Abdelhadim Ben Ali, vous êtes président de l'association Plume d'Espoir. Alors qu'est-ce que cette association ?
Oui, bonjour, bonjour à tous. L'association Plume d'Espoir, c'est une petite association qui est sur Manosque, dans les quartiers QPV, avenue Georges Pompidou. Donc l'association elle a plusieurs pôles. Le premier pôle, c'est les colis alimentaires. On va dire on distribue des colis alimentaires. Les cours d'arabe pour les enfants. On a des cours de FLE, le français langue étrangère. Et le soutien scolaire. Le soutien scolaire, pareil, le soir pour les enfants. Et l'insertion professionnelle, on va dire, pour les personnes qui ont du mal à trouver du boulot, qu'on essaye de leur faire des CV, de les aider à trouver des entreprises. Et des activités culturelles comme celles qu'on fait aujourd'hui, on va dire l'exposition.
L'exposition voilà. Dont on va parler tout à l'heure.
Ouais.
Alors, vous êtes combien d'adhérents et...
Alors, au niveau adhérents, on est à peu près 130. Au niveau bénévole, sur tous les pôles, on est 52, près. Et on a un conseil d'administration qui se compose de 12 personnes et on est 6 au bureau. Donc 6 personnes au bureau. Après, on a des personnes qui sont comme Walid, qui est chargé de la communication, Adonia qui est chargé de tout ce qui est activité culturelle. Voilà.
Et bon, on va en parler avec eux, justement.
Ouais, ils sont là.
Ils sont là tous les deux. Parmi ces 52 bénévoles, deux enfin, vous ont accompagné. Walid, tout d'abord, Walid Bejaoui. Alors, vous êtes concerné par la communication.
Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, en fait, je suis responsable de la communication visuelle pour l'association Plume d'Espoir. Donc, je tenais à préciser que Plume d'Espoir, c'est avant tout une association, une aventure humaine dédiée à l'entraide et la solidarité. Donc, ça, c'est les deux mots-clés, la base de cette association. Moi, je suis avec Plume d'Espoir depuis un peu plus de 2 ans. Et mon rôle principal, en fait, c'est de mettre en lumière nos actions, nos projets à travers des supports visuels qui reflètent nos valeurs et notre engagement. J'aide aussi un petit peu à tout ce qui est organisation d'événements.
Qu'est-ce qui vous a convaincu ou qui vous a poussé à adhérer à cette association ?
Ça correspond exactement à mes valeurs. Ce que cette association, en fait, elle est universelle. C'est-à-dire n'importe qui peut venir demander de l'aide. Et vu les conjonctures actuelles, en fait, elle n'est pas de trop. Voilà. Elle n'est pas de trop et au contraire, elle grandit. Et je vois que ça aide beaucoup de personnes. Et c'est ce qui, en fait, c'est ce qui me touche le plus. C'est ça, c'est qu'en fait, on en a besoin aujourd'hui. Et puis c'est une association qui reste neutre, voilà. Donc et aujourd'hui être neutre,
c'est
simple,
c'est presque un combat.
Ouais, et voilà.
Dounia, c'est la même. Vous avez
c'est
la
ça.
Même motivation.
Bonjour à tous. C'est ça exactement. J'avais les mêmes valeurs aussi que possède cette association. L'aide humanitaire aussi, la solidarité, le fait qu'ils soient très solidaires, soit une association très solidaire, ce qui me plaît énormément. Donc je suis bénévole dans cette association depuis l'été dernier. Je cherchais une structure qui me permettait de mettre à profit du coup mes compétences. Donc je suis éducatrice sportive, je voulais justement aider les autres. Et c'est en Plume d'Espoir que j'ai trouvé ce que je recherchais, donc ça correspondait parfaitement à ce que je recherchais. Depuis, j'ai participé à des sorties sportives, des événements, et aussi à la distribution de colis alimentaires. C'est une association du coup qui a grandi depuis un an, ça a grandi énormément et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi et qui m'ont beaucoup apporté. J'apprends énormément au quotidien avec cette association et j'ai hâte de continuer à évoluer avec eux encore plus.
C'est la solidarité et le partage qui vous motivent.
C'est ça, exactement.
Une activité qui a du sens pour vous.
C'est ça, exactement. Donc mettre à profit du coup, comme je disais, mes compétences. J'ai trouvé un sens et j'ai trouvé ce que je recherchais et aider les autres, aider mon prochain.
Et vous, Abdelhadim, voilà. Vous, en tant que président, vous êtes le créateur de cette association ?
Oui, je suis je suis à l'origine.
Et qu'est-ce qui vous a poussé vous-même, vous aussi, les mêmes raisons ?
Les mêmes raisons, oui. Et en fait, d'origine, moi, j'étais un papa de deux enfants, même cinq enfants. Mais là, en ce moment, c'est deux enfants qui font des cours d'arabe. Et donc, j'étais sur le fait qu'on a mis en place les cours d'arabe. Et du coup, suite à ça, on a aussi des personnes qui
Parce
sont
venues... Parce que ça n'existait pas avant.
Avant, c'était différent. C'était sur...
avant vous, je veux dire. Avant voilà. Votre association, oui.
Non, elle n'existait pas. C'était une création. C'est une création. Et sur des cours d'arabe, après, on est passé à des cours de français langue étrangère. Et puis, c'est le Covid qui est arrivé, et donc le soutien scolaire. Donc, on a l'aide administrative. Et en fait, l'idée, c'est d'aider les gens, en fait, d'aider les gens qui sont dans la difficulté. Parce que les personnes n'ont pas forcément les bons repères, aller dans des administrations qui ne comprennent pas forcément le français. Nous, on avait des personnes qui parlent plusieurs langues, donc ça permet de faciliter. Donc, voilà, donc c'est assez...
J'imagine ça grossit chaque année, non?
Oui, ça c'est... Ça grossit chaque année, oui, bien sûr. On est passé de petit avec les locaux. Et après, on a dû prendre des locaux parce que finalement, on y arrive tout juste à payer nos locaux. Mais ça, c'est au fur et à mesure, ça grossit. Les bénéficiaires, on en a. Enfin, on est passé de 30 à 60, à 100, à maintenant à 250. L'année dernière, on a fait 2000 colis alimentaires.
Ah oui, c'est quand même
donc
beaucoup.
Donc on est à 200, sur les colis alimentaires par exemple. Quand on a fait le bilan, c'était 227 foyers inscrits chez nous. Et donc on est à 193 jours de distribution, 4 jours par semaine, le mardi, jeudi, samedi, dimanche. 1800 heures de travail l'année dernière des bénévoles. On a des colis, on fait 45 colis par semaine. Bon, après, ça dépend de ce qu'on ramasse, parce qu'on ramasse dans des centres commerciaux.
Vous parlez des dons, là, alimentaires.
Ouais, les dons, on récupère et finalement, on redistribue tout de suite, quoi.
Est-ce que vous avez des aides financières? Est-ce que la ville vous aide? Est-ce que vous
Non,
avez...
jusqu'à maintenant, non. Si je vous dis oui, je vais mentir. Donc, on n'a pas d'aide. On fait des dossiers chaque année et on n'est pas aidé. Après, maintenant, j'ai pris rendez-vous avec la mairie. On va voir si, encore cette année, ils nous donnent quelque chose pour pouvoir nous aider, notamment à payer les charges fixes. Mais non, c'est beaucoup de personnes qui nous aident. Mais sinon, il y a les cours d'arabe qui payent une partie, et ainsi de suite. Quoi.
Et en plus, votre association, les gens, ou les situations dont vous vous occupez, c'est tout le bassin, le bassin manosquin, en fait.
Oui.
Hein, c'est vraiment le
bassin manosquin, la DLVA, on va dire, parce qu'on a des gens de Griot qui viennent chercher des colis, on a des gens de Sainte-Tulle, on a des gens de Volx qui viennent chercher des colis.
Ah oui, c'est donc la DLVA.
Non, c'est pas que restreint à Manosque même, ou au quartier même. Mais on a beaucoup de gens donc, des quartiers QPV quand même. Voilà.
Vous couvrez énormément d'activités, en fait. Et aujourd'hui, vous êtes là pour une raison particulière. Enfin, plus particulière, c'est vous êtes venu nous parler d'une exposition, d'un projet d'exposition, d'une exposition qui a lieu en ce moment. Et il y a quelqu'un pour nous en parler, quelqu'un qui fait partie aussi de Plume d'Espoir. Il s'agit de vous, Mohamed Abdi. Bonjour.
Bonjour à tous et bonjour à toutes.
Quelle est votre fonction
au sein de
Plume d'Espoir?
Ce que je dis souvent, c'est que je suis à la fois dans cette assemblée le plus vieux en âge et le plus jeune dans l'association, parce que moi je rejoins l'association il y a deux ans, essentiellement d'abord comme prof de FLE, donc français langue étrangère, ce qui est mon métier d'origine aussi, parce que j'ai une formation enseignant. Et dans le même esprit aussi, ce que disait Dunia, ce que disait aussi Olid, ce qui m'a retenu dans l'association et qui m'a amené ensuite peut-être sur cette exposition, c'est l'esprit qui régnait dans ces cours de FLE. Il y avait à la fois des jeunes venus d'Afrique, des gens d'ITER, voilà. C'était un public très 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 vaste. Gens d'ITER qui apprenaient le français, donc qui n'étaient pas dans les colis alimentaires, si on peut dire. Mais il y avait aussi des jeunes qui venaient d'Afrique, d'autres de l'Afghanistan. Et vraiment, c'était très 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 intéressant. Je prenais plaisir, par exemple, quand je faisais les cours, de mettre un map monde derrière et chacun montrait où il était. Et le plus passionnant, c'est devant une Bulgare en train de discuter avec un Libérien et trouver un échange. Ou encore mieux, une Bulgare trouver dans les mots bulgares qu'elle utilisait
discuté avec le Yéménite quand il disait j'appelle Daftar. On dit, tu dis Daftar, c'est le cahier, mais dans ma langue aussi, on dit ça. On découvrait que la présence ottomane en Bulgarie, donc ça permettrait vraiment d'enrichir tout ça. Et c'est cet esprit-là de rencontre où aussi les situations sociales étaient différentes. C'est-à-dire quelqu'un d'itère qui va discuter avec un jeune immigrant, et c'est des expériences humaines qui sont très très riches. Et donc c'est dans cet esprit-là aussi que je suis resté dans cette association. Et quand ce projet d'exposition est arrivé, alors je précise que je ne suis pas du tout spécialiste en histoire. Moi, ce qui m'a intéressé dans la société...
Spécialiste en pédagogie, m'avez-vous dit.
Pédagogie, voilà. Je suis plus dans la pédagogie et plus aussi dans... C'est plutôt des formations littéraires, dans tout ce qui est ces questions-là d'histoire, de littérature, des sciences humaines, de manière générale, m'intéresse. Et quand ce projet-là est venu, dans le contexte actuel, vous l'avez dit aussi, où on est dans cette polarisation instrumentalisée de partout, donc c'était bien de trouver des choses parfois qui nous rassemblent. Et cette expo donc s'appelle « Les musulmans dans l'histoire de France », donc c'est une mise en perspective très large du Moyen-Âge à nos jours, de relations, des échanges civilisationnels, à la fois au niveau politique, mais au niveau aussi des populations,
culturelles aussi.
Et c'était cette traversée-là qui nous a paru, qui allait aussi dans le même esprit de l'association, ça paraît vraiment de mettre ça en avant. Donc voilà.
Et qui est le créateur de cette exposition ?
Le créateur de cette exposition, c'est Jamel El Hamri. Il sera là, d'ailleurs, il y a l'inauguration. Le vernissage ce soir de l'exposition, il fera une conférence.
Nous sommes vendredi 24.
Donc ce soir à 18h.
Et cette expo, excusez-moi, je vous coupe, mais exposition se tient jusqu'au 1er février.
C'est ça.
À Manosque, à la MJC de Manosque.
C'est ça.
Donc facile à trouver.
C'est ça.
Aux horaires de la MJC. Donc je vous laisse reprendre.
Voilà. Donc Jamel El Hamri qui sera là ce soir pour présenter de manière assez dynamique cette exposition. Donc Jamel El Hamri, il est docteur en histoire de l'islam contemporain à l'université de Strasbourg. Il est diplômé d'islamologie à l'école pratique de hautes études de Paris, la Sorbonne. Il est historien, donc spécialiste de l'islam. Il est aussi chercheur associé à l'Institut catholique de Paris. Voilà, et il est consultant aussi. Donc c'est un passionné d'histoire. Il enseigne dans le collège. Et quand lui-même il parle comment cette idée de cette exposition est née, c'est quand il faisait des conférences et qu'il se référait au livre de Mahmoud Harkoun, dont le titre, que je ne dise pas de bêtises, c'est « Histoire de l'islam et des musulmans en France du Moyen-Âge à nos jours ». Albin Michel, c'est un ouvrage collectif. Et il disait, quand il faisait des conférences et qu'il citait ce livre, il voyait de l'intérêt, à la fois dans la population musulmane, parce que cette exposition, elle s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse à la fois aux Français de confession musulmane, mais qui sont Français, qui sont là, et qui parfois aussi, eux-mêmes, ont peut-être intégré parfois de ne pas faire partie du roman national. Parce qu'il y a un bruit de fond qui dit que, voilà, c'est des pièces rapportées. Et lui, ce qu'il met dans cette perspective-là, c'est démontrer qu'il y a une diversité inclusive de l'identité française qui est plurielle. Et c'est démontrer, à travers cette exposition, que les musulmans font partie.
Ah oui, il fait partie
de l'histoire de France, quoi.
Et du cœur de la nation.
Et du cœur de la nation.
On disait tout à l'heure, hors micro, ça doit être parfois très horripilant de ce sentiment pour les musulmans d'être obligés toujours de justifier leur place dans la société. Et souvent, ça a été instrumentalisé, on le sait, par quel extrême que ce soit. Donc, c'est pas facile. Mais le problème, est-ce que les médias relaient ce genre de choses?
C'est justement un des objectifs de ce genre d'exposition, c'est de quitter le côté passionné, parce que les extrêmes s'enrichissent, hein. C'est-à-dire que c'est un dialogue. Et donc, la voix du milieu, qui est la voix de la paix, elle n'est jamais entendue. Et cette voix de la paix, elle veut venir aussi avec le savoir. Donc, une fois qu'on amène du savoir et qu'on prend de la hauteur, ça permet... C'est pas le plus audible, hein. C'est très difficile d'entendre, parce que la passion parle toujours plus fort que le savoir et l'esprit critique. Donc, Et parfois, les voix du milieu, de quel qu'ils soient, qu'elles soient à la fois des confessions musulmanes, mais l'humaniste aussi, hein, ceux qui sont des valeurs humanistes,
là, c'est au-delà de
toute confession, se retrouvent en tenaille entre deux extrêmes, qui sont aussi dans la religion musulmane, hein, qui sont tout ce qu'on entend, hein, mais qui sont aussi alimentés de l'autre côté. Donc l'idée avec cette exposition, c'est de trouver cette voie de la rationalité et de l'histoire et cette mise en perspective.
Le premier point, c'est l'éducation, finalement.
C'est l'éducation. Et d'ailleurs, dans le projet de Jamel El Hamri, il insiste sur ça. C'est vraiment... Il a fait tout un dossier qui est un dossier pédagogique.
Pour
accompagner l'expo et pour montrer des points d'entrée du programme, que ce soit du collège au lycée. Donc il a tout un dossier pédagogique qui accompagne, qu'on a envoyé aux enseignants, je l'ai envoyé à tous les établissements. Lundi, nous accueillerons une classe de première du lycée des Iscles, qui est d'ailleurs dans cette spécialité, maintenant qu'on a les nouvelles formules du bac, elle est dans la spécialité géopolitique et sciences politiques. Et c'est très très important que ces jeunes qui peut-être demain seront dans la diplomatie, iront dans l'international, qu'ils voient un petit peu que les enjeux sont, qu'ils aient ces distances nécessaires pour comprendre. Donc il y a tout un dossier pédagogique pour montrer qu'elle s'imbrique aussi dans les programmes scolaires.
Alors cette expo, quelle forme a-t-elle ?
Elle est composée de 18 panneaux, donc elle va du Moyen-Âge, c'est la période médiévale, donc je ne sais pas en combien de panneaux ils sont, chaque période est divisée, mais on a 18 panneaux, assez riches, à la fois avec des œuvres d'art, des peintures qui illustrent, mais aussi un texte un petit peu qui met en contexte, donc il y a la période médiévale, 711-1492, une partie période moderne, 1492-1798. Ensuite, la période contemporaine, 1798-1900. Et la période 20e-21e siècle, donc très, très actuelle. Quoi. Voilà. Donc, il y a 18 panneaux. Il y a aussi un accompagnement audiovisuel qu'on a mis en place. Donc, il y a une télé aussi qui est là. Et puis aussi, à la fin, il y a aussi une ouverture à la contemporain et les questions dont on a parlé, des questions un petit peu actuelles, comment tout ça résonne dans l'actualité. Voilà. C'est une exposition qui a été à Paris, Bordeaux, Mande-la-Jolie, Perpignan, dont elle est itinérante et à chaque fois elle a un succès parce qu'elle interpelle. Peut-être là où nous avons manqué un peu de temps parce que l'idéal aurait été aussi...
De temps d'exposition, vous voulez dire ?
Aussi bien de temps d'exposition, mais les prolongements de l'exposition, c'est-à-dire de faire des ateliers, des discussions, d'ouvrir, tout ça nous a manqué. C'est là aussi... Ou parfois l'associatif, il atteint ses limites parce que voilà, vous avez vu toutes les activités sur lesquelles on est. Et nous n'avons pas eu assez de temps pour préparer tout ce qui pourrait être dans le prolongement. Qu'une expo, l'expo, elle sert simplement à démarrer un dialogue, à démarrer un débat, à lancer les choses. Donc ce n'est pas parce qu'on aura fini, elle s'arrête le premier, qu'elle doit susciter, impulser, doit s'arrêter.
Impulser chez tout le monde, chez tous les spectateurs. Pour ce qui concerne la nation, pour les Français, en tout cas, qui connaissent un peu leur histoire,
Exactement. Et d'être dans... Sans avoir peur de... Parfois, nous n'avons pas à avoir peur de dissensus. C'est bien le dissensus. C'est juste qu'on puisse se parler et se remettre en perspective et trouver ce qui nous... Là où nous retrouvons. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se retrouve. Et tout à l'heure, on disait qu'il faut... C'est la seule option que nous avons...
Absolument.
...pour éviter que nous soyons pris en tenaille entre tous ces discours qui déchirent les tissus de la nation. On souhaite que vraiment le maximum puisse y participer. Et peut-être voir, nous aussi, en tant qu'association, comment nous pouvons... d'autres projets qui iraient dans ce sens-là et aller plus dans ces projets qui jouent ce rôle-là. Ce rôle de médiation, même si c'est comme vous dites, il est plus facile d'être dans le slogan plus punchy et les gens ils sont avec les réseaux sociaux.
Ce sera qui sera relayé.
Sarah tout de suite, c'est punchy. Peut-être on va prendre le temps.
Abdelhadim Benali, quels sont les projets que vous avez dans l'avenir, dans un avenir proche ou lointain? Il y en a quelques-uns pour l'assaut.
On a un projet de sortie avec les enfants. Je pense que ça va être autour de Barcelonnette qu'on va essayer de sortir un petit peu sur un week-end.
Ils sont nombreux les enfants ?
En gros, on a 120 enfants, mais après, ceux qui souhaitent sortir, parce que là, en gros, on fait à peu près une cinquantaine. Ça fait un quart, voilà. Voilà, après, on est en train de chercher une salle pour faire du repas solidaire. Donc, c'est un repas pour tous qui va démarrer normalement au mois de mars, mais on est toujours en train de chercher un local, comme on l'a fait l'année dernière. On avait distribué 3000 repas l'année dernière, à peu près vers la même période, quoi. Ça, c'est pareil, c'est des projets qui nous restent encore à fignoler, à mettre sur pied. Voilà, et on a aussi un projet qu'on met en place. On va amener nos bénéficiaires, en fait, à sortir un peu de chez eux et aller ensemble pour faire de la manothérapie, pour le bien-être. On voit que c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Ou, voilà, donc on essaye de diversifier aussi nos ateliers. Voilà, on a eu fait des ateliers cuisine, des trucs comme ça à l'association. Bah, après, ça dépend des bénévoles.
Ça peut être utile.
Des fois, c'est proposé par plusieurs... Voilà, voilà, c'est proposé et après, selon la faisabilité, ben, soit on le fait, soit on, voilà, soit on a le budget pour le faire, soit on ne peut pas. Le budget, c'est toujours le nerf de la guerre.
Si on est intéressé par l'association, voire l'exposition aussi, si on veut se rapprocher de Plume d'Espoir, comment il faut faire? Vous avez un site web ou vous avez
oui,
un
on a un site internet, oui. Bah, je préfère laisser Walid qui est en communication.
C'est vrai que Walid, on a le communicant avec nous.
Ouais.
Walid.
Alors, pour en savoir plus en fait, sur nos actions, rendez-vous sur notre site www.plume04.com. Ensemble, donnons des ailes à l'espoir et de l'encre à la plume.